carrefour des arts. À la redécouverte du théâtre musical. On retrouve Christophe Mirambeau et Marianne Durand-Lacaze.
Juin, c'est l'été 2006, il y a 70 ans, l'été 36, c'est le grand Charles qui n'était pas encore Monsieur Trenet. Petit panorama de la chanson Congé payé, à bâton rompu avec Martin Penney, historien de la chanson, et Christophe Mirambeau.
Bonjour Martin Penney, merci de nous rendre visite ici à Canal Academy.
Bonjour Christophe Mirambeau.
Je vous présente en deux mots, vous êtes le monsieur chanson incontournable du paysage musical français. Vous êtes un historien de la chanson, un journaliste, un producteur à France Musique. Et vous venez ici pour discuter avec nous de Charles Trenet et de cet été 36 dont nous fêtons évidemment le 70e anniversaire. Alors Charles Trenet a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Les méchantes langues ont dit c'est pour rajeunir et changer l'image de l'Académie. Personnellement, je pense qu'il a été élu tout simplement parce que l'arrivée de Trenet dans le paysage musical de la chanson française est un véritable boom. Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire dans l'histoire de France.
Oui, moi je dirais que l'élection de Trenet à l'Académie a permis quand même de faire aussi entrer la chanson, art souvent considéré comme mineur, dans une institution ô combien vénérable, et donc je trouve que c'est en cela aussi très bien. Alors en ce qui concerne le parcours de Charles Trenet, oui, je crois qu'il s'inscrit dans les années 30 au sein d'une famille qui a, on le dit souvent, renouvelé la chanson. Bon, c'est vrai, mais il faut pas non plus négliger quand même tout ce qui se faisait à côté. Mais c'est vrai qu'il a appartenu, disons, au courant de la chanson poétique, paysagiste, qui a été lancée vers 1930-32 par Mireille et Jean Nohain, puis Jean Tranchant, et après est arrivé Trenet. Et Trenet a en quelque sorte fait la synthèse de tous ses aînés, puisqu'il avait quand même, il était un peu plus jeune que Mireille, Tranchant et Jean Nohain. Mais lui, il a sublimé en quelque sorte, par en plus une interprétation particulièrement exaltée sur scène qui a fasciné le jeune public, et même le public moins jeune. Alors vous savez qu'il a débuté en duo avant de se lancer seul dans la chanson. Donc il y a eu Charles et Johnny, donc c'était Charles Trenet et Johnny S., qui ont débuté en 1934 dans un cabaret qui s'appelait Le Fiacre.
Alors excusez-moi de vous interrompre, nous allons revenir sur ce fiacre évidemment, mais faites-nous comme ça brièvement le panorama musical de la chanson dans cet entourage de temps 34-37 dans lequel s'insère Charles Trenet. Racontez-nous la chanson de ce moment-là.
Ça, c'est un peu une longue histoire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait encore, par exemple, la chanson royaliste qui avait connu ses heures de gloire dans les années 20 et qui était représentée dans les années 30 par Damien, par exemple, par Fréhel, par certains aspects, par Marie Dubas, mais qui était par ailleurs une fantaisiste aussi, et puis par la jeune Môme Piaf. Et on peut dire que finalement, la chanson royaliste survivra encore quelques décennies grâce à Édith Piaf. Et sinon, je pense qu'elle aurait disparu un petit peu avant. Et donc ça, c'est un courant qui est quand même très important. Ensuite, on a la chanson plutôt dansante, donc qui, elle aussi, est héritée des décennies précédentes, avec des orchestres comme Réventura et ses collégiens, par exemple, mais aussi Fred Addison et bien d'autres. Et donc, on a aussi les rythmes un peu plus exotiques, comme la rumba, qui envahit certaines productions de chansons à l'époque. Bon, alors après, en fait, les courants de la chanson sont extrêmement divers. Mais Trenet, lui, il a un peu touché à tous les genres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a introduit peut-être une écriture nouvelle, un peu surréaliste. Et c'est ça aussi qui a modifié les choses. Il a, comment dire, absorbé tous les nouveaux rythmes aussi. Et donc, ça a donné un genre assez unique qui a explosé, surtout lorsqu'il a commencé à chanter en solo, justement dans ces années du Front Populaire, c'est-à-dire vers 1937, lorsqu'il est revenu de l'armée.
Et donc, vous disiez à l'instant que Charles Trenet a commencé au fiacre. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Je voudrais que vous nous racontiez de quoi s'agit-il.
Alors, ce fiacre était donc un cabaret tenu par un personnage de la nuit parisienne complètement déjanté, très 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 exubérant, qui s'appelait Odette. Déjà le nom, ça en dit long. Et donc il adorait se travestir en fait en vieille châtelaine par exemple et débiter des refrains complètement ahurissants et parfois coquins au public noctambule qui fréquentait son cabaret, au sein duquel on avait de nombreuses vedettes. Par exemple Miss Tinguette qui adorait Odette. Et donc dans ce cabaret, Odette faisait en première partie débuter des chanteurs, ou même pas débuter, parce que Fréal y a chanté aussi, elle avait déjà quelques heures de vol derrière elle. Mais donc Charles Trenet et Johnny S ont débuté là en 1934.
Alors je ne résiste évidemment pas, Martin, à une chanson interprétée par Odette, et j'ai choisi une rareté que vous avez redécouverte qui s'appelle Abou Fémont.
Non, ça, Abou Fémont, c'est plutôt le sous-titre. En réalité, la chanson s'appelle Le Soin de Soin. Vous allez vite comprendre pourquoi en l'écoutant. Elle est d'ailleurs signée Géo Cogé et Vincent Scotto, qui étaient quand même des faiseurs de chansons plus que patentés dans les années 30, qui ont signé énormément de refrains très populaires. Ce qui prouve qu'ils aimaient aussi, de temps en temps, s'amuser à faire quelques petites chansons canailles pour un public nettement plus restreint.
Que nous avons ramené de Seine-et-Oise à Abou Fémont. Allons-y! Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Abou Fémont. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, il passe ses journées entières à Abou Fémont. Il délaisse même ses affaires pour Abou Fémont. Il n'a pas, je vous le certifie, d'autres ambitions. Son seul plaisir dans la vie, c'est Abou Fémont. Toutes les fois qu'il doit se rendre à Paris pour quelque temps, en l'embrassant d'un air tendre, je lui dis ne reste pas longtemps. Mais loin de moi, il a le cafard. Et deux ou trois jours plus tard, il reprend le train d'urgence pour Abou Fémont. Et pendant le trajet, il pense à Abou Fémont. L'exil pour lui, c'est bien rude, le pauvre garçon. Il a tellement l'habitude de Abou Fémont. Comme jamais on ne se quitte, je vous jure que quelquefois, à la fin cela m'irrite de l'avoir toujours devant moi. Je lui dis va donc faire un tour, et là s'il revient toujours, il est tout le temps dans mes jupes à Abou Fémont. La seule chose qu'il préoccupe, c'est Abou Fémont. Des fois c'est une rigolade comme distraction. Il invite ses camarades à Abou Fémont. Couplet patriotique. Comme il est très sympathique, la municipalité, dans un geste magnifique, l'a fait nommer député. Et maintenant, il n'y a pas d'erreur, afin de plaire aux électeurs, faut voir comme il se démène pour Abou Fémont. Mais je crains qu'il se surmène à Abou Fémont. J'ai beau lui dire par prudence, mais ménage-toi donc voyons, et le lendemain, il recommence à Abou Fémont.
Le soin de soin par Odette.
Vous avez osé là quand même diffuser ça.
Oui, bien entendu.
À l'époque, c'était une diffusion extrêmement restreinte. Le disque était à tirage privé.
Ah oui, mais justement, nous en profitons. 70 ans après, nous sommes dans des espaces de liberté. Donc, il est intéressant également d'entendre le type de chanson et de milieu de chanson dans lequel était plongé Charles Trenet à ses débuts. Alors, racontez-nous Charles et Johnny, puisque c'est au fiacre qu'il débute.
Alors, Charles Trenet et Johnny S, donc, ont formé un duo donc à partir de 1934, Johnny S étant au piano, Charles Trenet écrivant les paroles de la quasi-totalité de leurs chansons, voire parfois la musique aussi, Johnny S composant assez souvent les musiques, et donc ils ont apporté, via l'inspiration de certains poètes surréalistes, comme Max Jacob par exemple, et puis avec tous les rythmes nouveaux qui arrivaient dans la chanson, des rythmes syncopés, et donc ils les ont absorbés, et ça donnait des chansons très fraîches et et qui annonçait un petit peu ce que Trenet fera seul plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils n'étaient pas encore très connus, et d'ailleurs leurs disques se sont très peu vendus, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à regarder la chanson de l'époque avec une lorgnette un petit peu restrictive, dans le sens où on s'intéresse surtout à ce qui est devenu important par la suite, c'est-à-dire donc aux avant-gardes de l'époque. On a tendance à négliger toute la grosse production populaire qui était quand même l'essentiel des ventes, l'essentiel de ce qu'on entendait sur les ondes et sur les scènes de music hall. Donc on a quand même une vision un petit peu déformée. Donc pour être juste, il faut reconnaître que Charlie et Johnny étaient très peu connus, en tout cas à leur début. Bon, ils ont commencé à être un petit peu plus connus en 1936, qui était leur dernière année en duo. Mais donc leurs disques se sont très très peu vendus. Ils sont extrêmement difficiles à trouver, ce qui est quand même assez révélateur. Les partitions, on les voit jamais non plus. Je parle quand on chine, chez les brocanteurs, etc. Alors qu'on va trouver des piles de Lucien Boyer, par exemple, qui était une immense vedette de la chanson de charme intimiste dans ces années-là. Bon, c'était juste un exemple comme ça. Et donc, Charles Trenet et Johnny Hess essayaient de placer auprès des grandes vedettes de l'époque certaines de leurs chansons. Et ça, c'est comme très révélateur aussi de leur statut dans le monde du spectacle à l'époque. Donc, par exemple, ils ont réussi à faire chanter « Vous qui passez sans me voir » à Jean Sablon, qui était déjà une grande vedette en 1936, mais aussi une chanson par Lise Gauthier, qui était une excellente interprète de l'époque, très célèbre, un petit peu oubliée maintenant, hélas. Et puis aussi à Fréhel, par exemple, toujours en 1936, deux chansons. L'une qui s'appelait « Le fils de la femme poisson », qui est une chanson sur la fête foraine. Et une autre qui est vraiment en résonance complète avec les aspirations du Front populaire, qui s'appelle « La valse à tout le monde », et qui a été enregistrée au printemps 36. Et quelques mois plus tard, cette valse à tout le monde, ce sera quoi? Ce sera le 14 juillet 36, qui a été vraiment une des fêtes les plus importantes de cette avant-guerre.
Martin Penney, pensez-vous, avec le recul, en tant qu'historien, que Charles et Johnny sont en quelque sorte les successeurs de Gilles et Julien ou de Pils et Tabé?
Non, successeurs certainement pas, puisqu'ils ont éclos à peu près au même moment. Gilles et Julien faisaient beaucoup plus dans la chanson sociale. Ils ont démarré en 1932. Donc Gilles et Julien, c'était Gilles alias Jean Villard et Julien alias Amand Maître, qui étaient tous les deux issus de la troupe de théâtre de Jacques Copeau. Et donc, ils ont mis au point un numéro scénique extrêmement dépouillé et très expressionniste, j'ai envie de dire, avec un répertoire franchement engagé. Donc, c'était absolument pas le cas de Charlie et Johnny. Quant à... qui était beaucoup plus donc dans la chanson poétique, fraîche et un petit peu surréaliste dans l'écriture. Et c'est pas non plus le cas de Pils et Tabé, qui eux étaient peut-être les duettistes les plus connus de ces années 30, les plus populaires. Eux ont vendu énormément de disques. Et qui ont démarré en 1932 avec Couché dans le foin, une des premières chansons de Mireille Jeannin. Et après, ils en ont enregistré d'autres. Et puis, ils ont enregistré aussi un répertoire différent de celui de Mireille Jeannin. Mais ils ont été un peu quand même les interprètes qui ont permis de populariser davantage Mireille Jeannin. Alors, le lien qu'on pourrait faire avec Charlie et Johnny, c'est qu'effectivement, tous ces duettistes appartiennent à une vogue qui s'est beaucoup développée dans les années 30. Et que, par ailleurs, tous ont contribué au renouvellement de la chanson à l'époque. Enfin, de là à dire qu'ils sont les successeurs, je ne pense pas. Je pense qu'ils s'inscrivent dans une même famille.
Martin Penney, je vous propose, pour illustrer votre propos, d'entendre un duo de Charles et Johnny, spirituel, représentatif d'un esprit parisien, coquin et cocasse. Tout est au duc.
Navire accoste au quai, je suis invité chez le duc de Montmorency qui demeure ici. Château, villa, maison superbe, jardin fleuri, bel aqueduc, jeune poulain sautant les herbes.
Tout cela est au duc.
Et sur les marches du perron, quatre laquais chantent en rond.
Attention!
Tout est au duc ici, monsieur, tout est au duc, tout est au duc, tout est au duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux. Il est nerveux, et nous cherchons en vain depuis un truc
pour faire pousser les poils du duc.
<t'-> fait un grand dîner, car le duc a tué à la chasse des isards,
des pies, des lézards.
La duchesse est une jeune femme qui n'a pas plus de 20 printemps, et moi je suis tout feu, tout flamme, et je ne tiens plus mon cœur battant. Mais sur les marches du perron, les mêmes laquais chantent en rond. Attention, tout est duc ici, monsieur, tout est duc, tout est duc, tout est duc.
Il tue les gens qui osent à sa femme dire tu.
Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou lorsque le duc tue.
Le duc a tué déjà plus de 30 rivaux, il leur a bouffé le cerveau.
Alors tant pis pour vous, mon cher monsieur,
si vous êtes trop audacieux.
Songez, hélas, qu'on peut devenir nu
en recevant le pied au duc.
Quand je revins au château, on me dit bientôt, vous trouverez du changement depuis 25 ans. Papier timbré, huissier terrible, saisi, arrêt du percepteur, mur délabré, trucs impossibles.
Oh là là, quel malheur!
Et sur les marches du perron, un seul mythe chantait en rond. Déception! Rien n'est au duc ici, monsieur, rien n'est au duc, rien n'est au duc, rien n'est au duc. Elle lui a bouffé son fric, la petite nana. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc n'a.
Le duc n'a rien, monsieur, nos bas sont rapiécés, nos culottes sont toutes froissées.
Nous avons faim, nous sommes capables de tout,
mais s'il n'y a rien, mais rien du tout,
il faudra bien qu'on lui fauche sa perruque,
et nous boufferons les poils du duc.
C'était Charles et Johnny. Dans Tout est au duc, Martin, vous vouliez rajouter un petit détail.
Vous devriez préciser, Christophe, que cette chanson est accompagnée par l'orchestre de Fred Addison, et qu'en fait, donc, était quand même un jazz de scène très très connu à l'époque. Charles et Johnny en assurant le parti vocal, en somme. Alors que c'est, bon, c'est eux qui ont écrit la chanson, hein. Mais il s'agit surtout de leur dernier disque, qui a été fait fin 36. Donc c'est, ça marque en fait le chant du cygne du duo, puisque peu après, Charles Trenet part à l'armée pendant un an. Et donc lorsqu'il reviendra à la fin de l'année 37, eh bien il va se lancer seul sur scène, et c'est là qu'il va réellement exploser.
Martin Penet, vous venez de publier un magnifique ouvrage aux éditions Omnibus qui s'appelle Été 36, avec une magnifique collection iconographique, de somptueuses explications, des textes et un disque pour lequel vous avez fait des restaurations et des recherches. Parlez-nous de votre travail d'historien de la chose sonore.
De la chose sonore. Eh bien, c'est un métier finalement assez peu connu et assez difficile, dans le sens où pour faire un CD digne de ce nom, il faut d'abord établir un programme, un choix de titres qui soit, je dirais, original, dans le sens où il faut qu'il mêle des refrains connus, si possible représentatifs du thème souhaité. Ou alors si c'est consacré à un interprète, donc c'est grand succès, mais aussi des choses moins connues. Parce que je pense que l'intérêt de toute œuvre de compilation, ou même de toute émission de radio, comme celle que vous faites, Christophe, c'est de séduire l'auditeur avec des choses qu'il connaît, mais aussi de l'entraîner vers des choses qu'il ne connaît pas, et donc lui faire découvrir, je dirais en quelque sorte, élargir son champ de curiosité vers des productions qui sont représentatives de l'époque, et qui n'ont pas forcément connu jusqu'à présent l'honneur des rééditions. Et donc je trouve que justement le propos, c'est de faire autre chose que ce qu'on trouve déjà dans le commerce. Donc il faut essayer de regarder tout ce qui s'est fait à l'époque pour sélectionner des enregistrements vraiment pertinents. Par rapport, là en l'occurrence il s'agit de l'été 36, mais donc ça peut être n'importe quel autre thème. Mais c'est pareil lorsqu'on fait un CD consacré à un interprète, je pense qu'il faut mettre certains de ses grands succès, mais aussi des choses moins connues qui vont représenter certaines facettes de son œuvre, de son répertoire. Bon, donc ça c'est la première phase qui consiste à concevoir le programme. Après il faut retrouver les originaux, parce que je pense que pour faire un bon travail il faut repartir des disques d'époque, et pas sur les CD faits par les copains. donc parce que en plus les techniques de repiquage s'améliorent disons d'année en année, et donc on a tout intérêt en fait à repartir de l'original pour tirer de cet enregistrement le meilleur du signal, de ce qui a été enregistré à l'époque. Et donc, ça suppose de partir aussi de disques qui sont dans le meilleur état possible. Donc, ça a l'air facile comme ça, mais ça n'est pas si simple, parce que les 78 tours, beaucoup ont trop tourné sur des phonos aiguilles qu'il élaborait. Donc, il faut vraiment essayer de dénicher des exemplaires quasi neufs. Et donc certains sont très rares parce que comme on parlait de Charlie et Johnny tout à l'heure, ils ont vendu très très peu de disques, mais il y a plein d'autres exemples comme ça de chanteurs qui vendaient peu. Alors c'est sûr, si on cherche les disques de Charles Trenet de l'année 38, on va les trouver sans trop de difficultés. Si on cherche les succès de Tino Rossi, on va les trouver sans trop de difficultés. Si on cherche Gilles et Julien dont vous parliez, si on cherche par exemple une chanteuse engagée de l'époque qui s'appelait Marianne Oswald ou des gens comme ça, là c'est déjà un peu plus difficile. Donc, il faut faire ratisser auprès des amis collectionneurs, des différents fonds qui existent. Et puis après, donc la troisième phase, c'est la restauration sonore proprement dite, qui nécessite un savoir-faire. Et je dirais que tous les studios qui se lancent dans cette aventure n'ont pas tous la même compétence. Donc, il faut vraiment choisir le studio qui a une bonne expérience, qui sache faire ça. Sans mutiler le son, tout en en tirant le meilleur parti. Donc il y a vraiment un compromis assez délicat à établir entre le fait de diminuer les bruits de surface, par exemple, de diminuer tout ce qui est désagréable, sans amputer le son. Et même au contraire, essayer de redonner au son un petit peu plus de richesse que ce qu'on pourrait avoir dans une écoute disons, sommaire sur un appareil domestique.
Martin Penney, pour conclure notre émission, à laquelle je vous remercie infiniment d'avoir participé, nous allons entendre une de vos restaurations, une chanson de Charles Trenet, tirée du film Je chante, La vie qui va. Alors évidemment, c'est à vous que je donne le mot de conclusion.
C'est vrai que Charles Trenet, en 1937-38, surtout 38, lorsqu'il explose vraiment, on peut dire qu'il s'inscrit dans cet espoir né du Front Populaire, qui lui était en 1936, mais bon, le Front Populaire a duré une bonne année, voire un peu plus, selon qu'en tant qu'historien, on fixe la limite de soit à l'été 37, date de démission de Léon Blum, soit à l'octobre 38, avec les accords de Munich. Enfin bon, il y a différentes étapes, si vous voulez, successives qui ont marqué la fin des espoirs suscités par le Front Populaire. En tout cas, Trenet, lui, donc avec toute sa production de chansons extrêmement enlevées, comme Il y a de la joie, Je chante, La vie qui va, La route enchantée, etc., c'est vraiment inscrit dans cette bouffée d'espoir qui a pu naître à la fin des années 30. Mais hélas, pour peu de temps.
Martin Penney, merci. Charles Trenet, La vie qui va.
La vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour. La vie qui nous appelle, comme l'amour, elle a des ailes. Oui, c'est elle qui fait chanter la joie. Quand tout vit, c'est que tout va. Quand tout va, la vie est belle, pour vous et pour moi. Je sais bien que demain tout peut changer. Je sais bien que le bonheur est passager. Mais après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme un mirage quand la vie va mieux. Vous qui rêvez d'un désir fou, vous qui chantez la jeunesse, vous qui pleurez d'un air très doux, le cœur rempli de tendresse. Stop, arrêtez-vous un instant, écoutez la marche du temps. Voici la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour. La vie qui nous appelle, comme l'amour, elle a des ailes. Oui, c'est elle qui fait chanter la joie. Quand tout vit, c'est tout va. Quand tout va, la vie est belle, pour vous et pour moi.
Je sais bien que demain tout peut changer. Je sais bien que le bonheur est passager. Mais après les nuages, mais après l'orage, on voit se lever joyeux l'arc-en-ciel dans vos yeux. Tout est beau comme un mirage quand la vie va mieux. La vie va mieux, la vie va mieux. Pour vous et pour moi, c'est la vie qui va.